Aujourd'hui, nous vous offrons le deuxième épisode des Affamés de Saint-Denis qui compte 5 volets.
Le 7 décembre 1941, Pearl Harbor, importante base navale des États-Unis aux îles Hawaï, près de Honolulu, est attaquée par surprise par l'aviation japonaise. Les pertes américaines sont considérables. 2 heures après, le président des États-Unis, Franklin Roosevelt, au nom de son pays, déclarait la guerre au Japon. Dès Noël 1941, dans les rues de Saint-Denis, les charrettes de manioc sont au fur et à mesure interceptées par les ménagères et les enfants affamés venus des quartiers les plus défavorisés de la capitale. Puis, comme le manioc est de plus en plus insuffisant, les charrettes sont prises d'assaut dès qu'elles arrivent à la hauteur du petit marché où la municipalité a fait installer un grand panneau sur lequel il est inscrit en gros caractères. Arrêt obligatoire de tout véhicule venant des quartiers. De plus, la mairie de Saint-Denis fait publier par les journaux du mercredi 21 janvier 1942 le communiqué suivant. Dès demain, le petit marché sera approvisionné en manioc. On pourra s'en procurer au prix de 0,40 francs le kilo. Désormais, ce sera seulement devant le petit marché et en présence d'un agent de la police municipale que sera vendu le manioc. Comme il fallait s'y attendre, maintenant, pour avoir 1 kilo de manioc, il faut se lever de bonne heure. C'est l'époque à la fois héroïque et honteuse où la population affamée doit se battre, gémir et s'humilier publiquement pour ne pas mourir de faim. À partir de ce jour-là, dès 7 heures, les premières ménagères arrivent une tente vide à la main. Là, sous le bouillant soleil, elles vont attendre la queue leu-leu jusqu'à midi, heure à laquelle arrive habituellement le convoi de l'espoir. Mais avant même qu'elles ne se soient arrêtées, chaque charrette est prise d'assaut par les plus malins et les plus agiles qui sont presque toujours les derniers arrivés et qui, de surcroît, n'ont pas fait la queue. Face à cette horde menaçante et sans raison, les charretiers doivent maintenant redoubler de vigilance s'ils veulent éviter le pire. Heureusement que chacun possède sa propre force de dissuasion, grâce à laquelle il lui sera possible d'assurer la sécurité et de sa charrette et de sa marchandise contre ces grappes humaines qui s'accrochent aux brancards, aux ridelles et aux roues de son véhicule encore en marche. Pour l'un, cette force de dissuasion, c'est tout simplement ce poing, brutalement agité de droite à gauche, menaçant les visages qui s'approchent un peu trop de sa charrette. Pour l'autre, cette force de dissuasion, c'est cette litanie de qualificatifs salés et pimentés, sélectionnés dans son vocabulaire de charretier et extraits, pour la circonstance, des archives folkloriques de sa mémoire. Pour certains, enfin, les moins patients peut-être, cette force de dissuasion, c'est avant tout le chabouk qu'ils font tournoyer dans toutes les directions, au-dessus et à travers la foule. Cette foule qui ne veut rien comprendre, cette foule qui ne veut rien admettre, parce qu'elle a déjà momentanément perdu le sens du bon sens. Alors la bousculade atteint son paroxysme. Les femmes qui sont en première ligne et qui reçoivent les coups tentent de s'enfuir en hurlant tout en se protégeant le visage des deux mains. Mais coincés, pressés et retenus par ce flot humain qui se rue vers les charrettes en les cernant de tous côtés, comme des bêtes traquées, elles se jettent alors dans cette foule inconsciente en hurlant encore plus fort. Le spectacle est terrifiant. Une frêle fillette aux longs cheveux mal peignés, perchée sur le brancard d'une charrette encore en marche, tend d'un air suppliant quelques pièces de monnaie aux marchands qui ne se contrôlent déjà plus. Dans ce vacarme, on ne peut entendre sa voix, mais son geste est significatif. Elle a faim. Soudain, un violent coup de chabouk déchire l'air et dans sa course, la lanière de cuir cingle au passage l'étroite poitrine de la gamine qui perd aussitôt son équilibre. Dans un geste instinctif et désespéré, elle tente de s'accrocher à la ridelle pourtant à portée de sa main. Mais c'est déjà trop tard. Les quelques pièces de monnaie qu'elle tient précieusement dans sa main brillent une fraction de seconde dans l'air surchauffé avant de disparaître, presque en même temps qu'elle, au milieu de cette foule en effervescence. On aura bien du mal à la dégager de cette forêt de jambes agitées par le vent de la faim et de l'inconscience. Et des scènes effarantes d'une intensité dramatique aussi impensable se renouvellent chaque jour. Il y a bien un agent de police présent sur les lieux. Il y a bien le commissariat de police du 2e arrondissement à quelques pas, attenant au petit marché. Mais les quelques agents sous-alimentés qui s'y trouvent sont largement dépassés par la tournure des événements. Pourtant, quand la bagarre frise l'émeute, la pompe à incendie, garée à l'hôtel de ville, est envoyée d'urgence sur les lieux pour disperser la foule. C'est le gendarme Angot qui est chargé de cette triste besogne qui n'est qu'un lamentable spectacle de plus. Devant ces brutalités répétées, les personnes paisibles, celles qui n'ont pas l'habitude de se battre ou de se faire remarquer en public, iront désormais attendre les charrettes au pont du Butor, c'est-à-dire à l'entrée de la ville. Alors ce sera la ruée vers le pont du Butor, vers le convoi de l'espoir. C'est en 1942 que la sous-alimentation fait le plus de victimes. Mais malgré tout, la lutte contre la faim et la mort continue et chacun s'efforce tant bien que mal de voir le jour se lever le lendemain. Un matin de janvier de cette année apparaît sur le marché local un nouveau produit alimentaire à base de manioc, le couac. La presse fait aussitôt les éloges de cette nouvelle denrée encore inconnue et incite le public à sa consommation par des slogans publicitaires impératifs. Mangez du couac. Pour beaucoup, ce nom représente l'espoir et la vie. Le couac, c'est tout simplement du manioc épluché, râpé et séché au soleil. On le mange cuit au sucre ou au sel. On peut également le faire cuire comme du riz. Pourtant, malgré toute la publicité organisée autour de ce nouveau nom, il ne tiendra à l'affiche que le temps d'une rose. Dans toute l'île, les matières grasses, huile de cuisine et sindoux, sont introuvables. Mais les communiqués officiels rassurent toujours les consommateurs par la voix de la presse. Le journal Le Progrès, du lundi 29 janvier, annonce: la vente de l'huile de table aura lieu dans toutes les boutiques de Saint-Denis dès samedi 31 janvier. Bien entendu, personne, sinon quelques privilégiés, ne verra la couleur de cette huile. Peut-être dans le but d'apaiser les esprits en donnant aux consommateurs l'illusion de pouvoir se ravitailler convenablement, de temps à autre, la presse publie un communiqué officiel et rassurant. Rassurant, parce que officiel. Exemple celui qui suit, publié par le journal Le Progrès du lundi 16 février 1942, où l'on peut lire: taxation des denrées alimentaires. Prix au détail. Riz de Madagascar, toute taxe comprise, le kilo 3 francs 20. Saindoux de Madagascar, le kilo 24 francs. Huile d'arachide désodorisée, le kilo net 19 francs. Sel de cuisine, le kilo 1 franc 90. Café de Madagascar, le kilo 13 francs. Café rond du pays, le kilo 19 francs. Café pointu du pays, le kilo 20 francs. Pommes de terre, le kilo 3 francs 25. Haricots du pays, le kilo 8 francs 50. Rationnement. Les rations à attribuer aux consommateurs par mois et par personne sont fixées comme suit. Savon, première catégorie, au-dessus de 10 ans, 200 grammes. Deuxième catégorie, au-dessous de 11 ans, 150 grammes. Savon ou huile comestible, première catégorie, au-dessus de 10 ans, 600 grammes. Deuxième catégorie, au-dessous de 11 ans, 300 grammes. Bien entendu, comme depuis quelque temps, ces denrées taxées sont inexistantes. C'est pourquoi, 4 mois plus tard, les journaux du 18 juin 1942 publieront un nouveau communiqué par lequel le public sera informé que les rations accordées jusqu'ici aux consommateurs seront réduites d'un tiers. Et comme d'habitude, ces denrées restent toujours introuvables. La ruche bourdonne. Devant cette situation catastrophique créée par le blocus prolongé de l'île, le Réunionnais devient ingénieux et le produit de son imagination se traduit bien vite par la naissance de micro-industries qui rendent d'énormes services à la population dépourvue de tout. À Saint-Pierre, par exemple, c'est M. Omarji Aboubakar qui prend l'initiative de construire une huilerie, huile d'arachide, et parvient à satisfaire avec l'huilerie de Grandbois la clientèle du Sud. D'autre part, avec de la cire d'abeille, du suif de bœuf et des graines de bancoule, il réussit à donner le jour à une bougie grise d'assez bonne qualité qui fait rapidement le plein des bougeoirs des maisons jusqu'aux candélabres des églises. À Petite-Île, un certain M. Boyer, bricoleur de renom, fabrique de ses propres mains une machine à coudre entièrement en bois avec laquelle il va coudre les chapeaux de paille confectionnés par sa femme. Au lieu dit Cambuston, à Saint-André, un honorable agriculteur, M. André Boeuf, construit une féculerie pour extraire du manioc la fécule qui sera ensuite transformée en tapioca pour l'alimentation des bébés.
Laisse-moi maman, laisse-moi papa, laisse-moi marier. Laisse-moi maman, laisse-moi papa, laisse-moi marier.
Pendant ce temps, à Saint-Denis, un photographe en chômage technique, M. Paul Martien Warreau, fabrique du sel avec de l'eau de mer qu'il met à évaporer dans des récipients qu'il obtient grâce à de gros bambous fendus dans le sens de la longueur. Ce sel, de mauvaise qualité d'ailleurs, est ensuite échangé avec les paysans contre des vivres de première nécessité. De son côté, après de nombreuses expériences, un jeune Asiatique nommé Lao Ton Ku parvient à fabriquer en très petite quantité un savon mou et blanc qui fait quand même la joie des ménagères dionysiennes. Faute de farine de blé, toutes les boulangeries de l'île sont au chômage. Toutes, à l'exception d'une seule, la plus importante de Saint-Denis, au blé de France, située rue Félix-Guyon, tout près de la rue du Grand Chemin et à quelques pas de la terrasse de la Belle Étoile, qui fait encore la fierté de Saint-Denis en 1942. Le propriétaire de cette boulangerie est un jeune musulman de 38 ans, dynamique et plein d'initiatives, M. Ibrahim Ismaël Dindar, déjà à la tête d'une importante fabrique de meubles en bois du pays. Il ne peut se résigner à licencier le personnel de sa boulangerie, soit 14 personnes en tout. Alors, pour leur procurer du travail assuré, il tente, à ses risques et périls, une expérience jamais réalisée dans l'île, la fabrication du pain de manioc. C'est une opération assez compliquée, puisqu'il faut d'abord trouver le manioc, ce qui n'est pas toujours facile, puis l'éplucher, le laver proprement afin de conserver sa blancheur avant de le faire bouillir dans d'immenses bassines. Le manioc cuit est alors écrasé, réduit en pâte, laquelle est légèrement salée, divisée en petits pains de 100 grammes avant de passer au four. Mais les Dionysiens boudent ce pain, qui, bien que très présentable, n'a aucune saveur. Pour le promoteur de ce pain de misère, c'est une catastrophe. C'est alors qu'il expérimente une nouvelle technique. Cette fois, le manioc épluché est râpé à l'aide d'une machine de fabrication locale, puis lavé en plusieurs fois afin d'extraire la fécule. La pâte restante est ensuite salée, pétrie, divisée en petits pains qui resteront 20 minutes au four. De bonne présentation, de bonne qualité et de saveur agréable, ce pain de manioc sera très apprécié des consommateurs. Malheureusement, il y a un inconvénient, un gros inconvénient. Il n'est comestible que le jour même de sa fabrication. Sa fermentation est si rapide qu'en période chaude, il devient toxique au bout de 24 heures. C'est pourquoi, chaque soir à la boulangerie d'Indare, les petits pains invendus de la journée seront distribués gracieusement aux nombreux indigents de la ville qui bénissent cette nouvelle manne. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ainsi est faite la vie. À 1942 est pour tout le monde une année difficile. Dépourvu de films, le cinéma Casino, tout comme le Plaza, fait relâche toute la semaine. Parfois, certains dimanches, une troupe locale donne un spectacle divertissant. À cette occasion, on peut lire dans la presse locale « Dimanche, à 14h30, au Plaza, grand spectacle avec le célèbre acrobate James et ses partenaires, D'Amour et Brahon. » Parfois aussi, au Plaza, dimanche à 14h30, François Lefebvre dans son répertoire avec Pochon et compagnie. Les autres jours et durant de longues semaines, une pancarte fixée à la grille de l'établissement porte cette inscription « Relâche ». Un beau jour, un mauvais plaisant colla sur cette pancarte une affichette sur laquelle on pouvait lire « Ce soir, un grand film d'aventure et d'action. La mort du cheval crevé. Ce soir-là, un nombreux public devait attendre longtemps et vainement, dans l'obscurité, devant les grilles fermées du cinéma Plaza de Saint-Denis.
Depuis longtemps, ôté Benoît, ôté Maxime. Quand elle était jeune fille,
quand elle était jeune gens,
t'étais jolie ma fille.
T'étais Maxime, t'étais pas mal non plus. Quand m'y pense le bon temps,
quand moi l'avais 20 ans,
nous regrette-nous la part jeune plus longtemps.
Faute de cahier et de papier, les devoirs écrits sont peu à peu réduits, puis supprimés dans les écoles primaires. Dès le 1er mars, les journaux aussi sont rationnés. Les quotidiens, Le Peuple et Le Progrès, réduits à 4 parutions seulement par semaine, et les hebdomadaires à une seule par mois. Dans le bâtiment, les constructions en pierre sont montées avec un mortier composé de sable, de chaux et de sucre roux en remplacement du ciment introuvable. Plusieurs de ces bâtisses sont encore visibles de nos jours.
La patte au moment, les morts de Paris, voilà. la cage chinoise, la royale, il manque le reste sur nous.
Bien que déjà partiellement enrayé par la quinacrine et la potion azéma, le paludisme fait encore d'énormes ravages dans la colonie. Les pharmaciens, qui n'ont plus grand-chose à vendre, à l'exception de quelques pommades, sont pour ainsi dire au chômage, eux aussi. Beaucoup de malades se tournent alors vers les plantes médicinales et vont se faire soigner à Saint-Bernard par le révérend père Rimbaud, qui accomplit de véritables prouesses grâce aux herbes de la montagne. D'autres préfèrent se rendre à la rivière des Pluies, chez Madame Médard, ou bien à Saint-Gilles-les-Bains, où M. Joseph Botard guérit presque toutes les maladies avec ses tisanes à base de poudre de bois amer, l'acacia amora, que l'on trouve encore dans certaines pharmacies. Le 20 mars 1942, à 2h du matin, un remorqueur anglais de 88 chevaux, le Portia, basé à Port-Louis, épeint pour la circonstance couleur océan, débarque clandestinement à l'embouchure de la rivière de Saint-Gilles. Et, sans attirer l'attention de quiconque, quatre hommes qui sont aussitôt hébergés par des habitants, anglophiles, ou gaulliste du quartier. Il s'agit du lieutenant de vaisseau Peter Simpson Jones de la Royal Navy et chef de mission d'une antenne de l'intelligence service basée à Port-Louis. Il est accompagné de Paul Portal, Henri Perdereau et Arnulf Fee. Ce commando a pour mission de s'assurer de l'importance et de l'efficacité de la défense de l'île en vue de l'occuper éventuellement. Car, depuis la fulgurante avance des Nippons dans l'océan Indien et à la suite du torpillage en plein jour d'un navire marchand anglais près de l'île Maurice, il est question d'un possible débarquement japonais sur nos côtes. À l'époque, la rumeur publique parla beaucoup à La Réunion de ce bateau fantôme, un sous-marin pour certains, qui, la nuit venue, hantait les abords de l'île. Ce débarquement clandestin s'effectue donc sans incident. C'est un succès complet pour l'intelligence service. Seulement voilà, le commando ignore que la barque spéciale à bord de laquelle il a touché l'île et qui fut camouflée sous les ronces, a été découverte et confisquée par les agents de la Sûreté nationale qui ont redoublé de vigilance et de zèle depuis le ralliement de Maurice Sama au FFL via l'île Maurice. Maurice Sama, aviateur réunionnais qui s'est rendu clandestinement en bateau à l'île Maurice dès le début de la guerre, pour rallier les forces françaises libres à Londres. Or, le 26 mars au soir, le remorqueur qui avait débarqué les quatre espions 6 jours auparavant les attend, comme convenu, au large de Saint-Gilles, où la mer est très houleuse. Pour le rejoindre, les quatre compères, qui se savent surveillés, s'emparent d'une barque de pêche avec laquelle ils comptent s'enfuir par le lagon de l'Ermitage. Malheureusement, la barque a une importante voie d'eau et coule dans la passe. Pris de panique, dans le courant qui les emporte dans la nuit, les fugitifs se mettent à hurler « Au secours !» Mais le Portia est encore trop loin, hélas. Alertés par ces cris de détresse, des pêcheurs de nuit se portent aussitôt au secours des naufragés. Mais deux matelots mauriciens ont déjà disparu, avalés par les flots. Henri Perdereau et Arnulf Fee. Le lieutenant Peter Simpson et son compagnon Paul Portal seront sauvés, arrêtés et remis aux autorités locales. Dès ce moment, un doute plane sur certains habitants de l'île et d'honorables personnes sont suspectées. Certaines sont même arrêtées sur simple dénonciation, jugées, condamnées à l'emprisonnement, avec confiscation des biens présents et à venir, sous l'inculpation d'intelligence avec l'ennemi. Plusieurs d'entre elles ne seront libérées que le 28 et 29 novembre par les officiers du FFL. L'ennemi, ce sont les Anglais. L'ennemi, ce sont les Mauriciens. L'ennemi, ce sont surtout les Français libres du général de Gaulle. Pour devenir suspect, il suffit d'avoir un récepteur radio et de se lever à 1h du matin pour écouter Londres. Pour devenir suspect, il suffit de se rendre au bord de la mer et de scruter l'horizon avec des jumelles. Pour devenir suspect, il suffit encore de critiquer l'administration locale, le maréchal Pétain ou Adolf Hitler. C'est le régime du silence. D'ailleurs, un slogan souvent publié par la presse locale se résume en deux mots clairs et précis. Taisez-vous. Ces mesures arbitraires ne font que compléter celles déjà en vigueur. Ainsi, dès 1940, l'aéroclub Roland-Garros est paralysé par un arrêté sans précédent. L'hélice et la dynamo de chaque avion sont retirées et confisquées par les autorités afin de priver les pilotes de l'envie d'aller rejoindre De Gaulle. Des arrêtés de ce genre sont assez nombreux de 1940 à 1942, puisque deux hauts fonctionnaires de l'État en assurent la protection en grande série. Le capitaine Artignan, chargé des opérations militaires dans la colonie, et Gigi Raymond Pillet, chef du cabinet du gouverneur. Au début, ces mesures draconiennes sont mal accueillies. Et puis, on finit par s'y adapter en attendant la libération. Cette libération qui ne peut venir que de l'extérieur. Le journal officiel de juillet 1942 annonce que, sauf le graton, la charcuterie est interdite sur tout le territoire de la colonie. De plus, les hôtels et pensions de famille ne pourront servir à leur clientèle qu'un plat de boucherie par jour. Par ailleurs, de temps en temps, les journaux rappellent l'arrêté numéro 1332 EC du 2 septembre 1941 interdisant d'utiliser le maïs en grain, le maïs de riz, et le maïs soso pour la nourriture des animaux. Afin de dépister les contrevenants qui s'exposent à de lourdes peines, certains agents de la police municipale, les plus zélés bien entendu, iront jusqu'à palper le jabot des volailles en vente chez des bazardiers de la ville. Malgré ces mesures, le maïs riz reste quand même introuvable au prix de la taxation, soit 2,95 francs le kilo. Pour aggraver davantage la situation, depuis quelque temps déjà, le bruit circule dans Saint-Denis que plusieurs personnes ont déjà été victimes d'empoisonnement par du manioc amer venant de la région de Saint-Benoît et transporté par chemin de fer. On cite des cas, on donne aussi des noms. La rumeur publique annonce même l'empoisonnement de familles entières. Alors, une véritable psychose s'empare de cette population à bout de souffle. Et la situation ne fait qu'empirer. Les Dionysiens se mettent alors à parcourir la campagne à la recherche de quelques kilos de maïs et de cinq doux. Certains reviennent fourbus et les mains vides. D'autres réussissent à faire d'excellentes affaires. Parfois, certains campagnards profitent de cette bonne occasion pour proposer à ces affamés une tente de maïs contre une robe ou un pantalon usagé. On échange tout simplement, sans retenue ni supplément. C'est le troc, c'est l'entraide, c'est la solidarité. Cette solidarité qui permet à chacun d'être utile à l'autre pour tenir le coup jusqu'au bout. Cette catastrophe nationale ce blocus inhumain, cette vie au jour le jour, ont fait des Réunionnais de véritables victimes de guerre, où les conséquences se répercuteront sans aucune exagération sur plus d'une génération. Ceux qui porteront toute leur vie le fardeau d'un retard intellectuel seront surtout les enfants des prolétaires, privés de livres, de cahiers, de papiers, de vêtements et de nourriture. Beaucoup de ces jeunes verront avec appréhension arriver la période des examens. Dans le Progrès du lundi 20 août 1942, on peut lire « Examen de droit, première année de licence, mention bien, Marie-Louise Hugo, Raymond Barre ». Pour cette époque tourmentée, deux Réunionnais à l'honneur avec mention bien, c'est déjà bien. Chacun pour soi, Dieu pour tous. L'horloge de la chapelle Saint-Michel, chez les frères des écoles chrétiennes à Saint-Denis, vient tout juste de sonner 9 heures que déjà la file de personnes qui attendent dans la rue, devant la boucherie Pota, s'étire sur plus de 20 mètres de part et d'autre de la porte d'entrée encore fermée. Le brouhaha de cette foule impatiente et en attente commence déjà à troubler le silence de cette rue, d'habitude paisible, et parvient jusqu'aux abords de l'église Saint-Jacques, à une centaine de mètres à peine. Bien que de conditions sociales différentes, les gens qui sont là sont presque tous semblables. Semblables, non seulement parce qu'ils ont tous sur leur visage délabré la signature d'une longue sous-alimentation, mais aussi parce qu'ils portent sur leur corps squelettique des vêtements décatis, décolorés, déformés et usés par une trop longue utilisation. Ces malheureuses au visage pâle sont là parce qu'une heure plus tôt, ce matin-là, quelques ménagères, toujours en quête de ravitaillement, ont vu M. Pota, le boucher bien connu du quartier de Saint-Jacques, conduire un bœuf à l'abattoir de Saint-Denis. Or, en cette période de disette totale, un bœuf qui s'en allait à l'abattoir constituait pour Saint-Denis un événement rare. C'est pourquoi, comme un éclair, cette nouvelle s'était répandue du Barachois au camp Ozou et du quai ouest au Butor. C'est pour cette même raison que, moins d'une heure après le départ du bœuf, les ménagères s'étaient déjà postées devant la boucherie où le bœuf dépecé n'était attendu que vers 16 heures. La boucherie Pota se situe juste à l'angle nord-ouest des rues Saint-Jacques et Sainte-Marie. Comme le soleil est torride, pour se protéger tant bien que mal, ces pauvres femmes sont obligées de s'aligner très verticalement, comme des bougies allumées, le long du mur et des maisons en bordure du trottoir de la rue Sainte-Marie. Du côté rue Saint-Jacques, le spectacle est analogue. Heureusement, personne ne s'ennuie, car les nouvelles locales et aussi internationales vont bon train. Et les speakerines de Radio Trottoir, toujours mieux renseignées que celles de Radio Saint-Denis, ont même l'obligeance de commenter chaque nouvelle après l'avoir annoncée. Mais sous cette chaleur étouffante, il faut bien s'ingénier si l'on veut tenir le coup. Aussi, de temps en temps, quelqu'une donne à son chapeau de paille la meilleure orientation afin d'obtenir le maximum d'ombre sur son corps, geste aussitôt imité par les autres. Et le temps passe.